La gendarmerie de Yengen ouvre une enquête pour violence contre personnes et destruction d'un véhicule par incendie. Lundi soir, 4 jeunes auraient été pris à partie par une vingtaine d'assaillants. Marie-Laure Ukiwe réagit dans une lettre ouverte à la déclaration unitaire proclamée hier par le FLNKS. Nous y reviendrons avec elle dans ce journal, puisqu'elle est notre invitée. 7 nouveaux jeunes issus du dispositif France Volontaire seront déployés dans quelques semaines au Vanuatu, à Fidji et au Cambodge. Leur stage de préparation vient de s'achever. Grâce à un projet pilote du lycée Jules Garnier, les lycéens peuvent apprendre le monde de l'entreprise. Nous en avons parlé ce midi dans nos jeudis de l'économie. C'est la fin de l'attente. Les francopholies reviennent dès demain au centre culturel Tchibaou. Voilà 2 ans que le festival ne s'était pas tenu. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, ce fait divers en province nord à Yengen. Les gendarmes et les pompiers de la commune sont intervenus ce lundi à 20h30 pour un incendie de véhicule à environ 1 km avant le bac de la YM. Sur place, ils découvrent une Clio en feu et à proximité 2 jeunes ensanglantés. Les détails avec le capitaine Chevalier, commandant second de la gendarmerie de Poindimier.
On apprend que la voiture serait tombée en panne, elle aura eu un début d'incendie qui a complètement brûlé la voiture et que ces 2 jeunes, il y avait 2 autres jeunes aussi avec eux qui se sont enfuis entre temps, ils ont été pris à partie par des jeunes qui se trouvaient à proximité. Donc ils ont été violentés, on ne sait pas pourquoi, voilà. Donc la gendarmerie était sur place. Les 2 jeunes qui ont été violentés ont été évacués par une ambulance sur le CH de Koné. C'est quelque chose qui n'est pas courant sur la côte Est. C'est même plutôt rare, très rare, des faits comme ça.
Les jeunes n'ont pas désiré porter plainte pour les violences subies. Une enquête a malgré tout été ouverte par la gendarmerie pour violences sur personne et destruction d'un véhicule par incendie. Et puis, vous avez été nombreux à nous dire que vous aviez entendu une explosion hier soir du côté de Magenta. Les pompiers sont uniquement intervenus sur un feu de palette au pied des tours de Magenta. Le bruit pourrait toutefois provenir d'une grenade de désencerclement.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Au lendemain du 24 septembre, pensez-vous que la fête de la citoyenneté a encore un sens? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Je vous le disais en titre, une invitée dans ce journal, Marie-Laure Ukiwe, qui publie une lettre ouverte pour réagir à la déclaration unitaire proclamée hier par le FLNKS. Marie-Laure Ukiwe, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Et pour vous interroger, Elisabeth Noir.
Marie-Laure Ukiwe, membre des Républicains calédoniens. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous écrivez dans cette lettre ouverte que vous ne pouvez rester silencieuse face à la déclaration unitaire proclamée ces derniers jours par le FLNKS, constituée de certains groupuscules extrémistes. On va revenir sur cette déclaration et sur ce qui motive votre réaction. Mais tout d'abord, à qui est adressée cette lettre ouverte ?
C'est une lettre adressée aux Calédoniens et en particulier à la communauté kanak parce que ce geste, cette déclaration unitaire nous montre que la religion et la coutume sont utilisées politiquement et donc politisées. Et c'est pour donner la parole à ceux qui sont du coup pris par cette position, alors que la communauté kanak a 2 grands piliers que sont la religion et la coutume, et qui du coup sont pris en otage.
Alors dans cette déclaration, on rappelle que le FLNKS a réaffirmé sa volonté de voir la Calédonie accéder à la pleine souveraineté, qu'il rappelle sa volonté que les élections provinciales soient maintenues en novembre 2025, que l'indépendance soit proclamée au plus tard avant la présidentielle de 2027. C'est tout ça qui vous agace, qui vous met en colère, c'est ce message ?
C'est un cri du cœur, c'est un cri de haine, c'est un cri de colère, parce que c'est au peuple, via les urnes, de décider, et pas à des personnes qui ne sont pas élues, de le dire, de le prédire, bien au contraire. Et c'est aussi à travers cette déclaration, pour moi, je l'ai ressenti comme une confiscation de la parole, de la pensée, de l'expression des gens, lambda. Et c'est pour ça que oui, c'était vraiment un agacement, une grande colère.
Parce que vous dites aussi que c'est pas ces déclarations politiques, c'est pas ce qui motive les Calédoniens aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui les intéresse. Hein.
Bien au contraire, le Calédonien aujourd'hui est en train d'essuyer les plâtres des émeutes de mai 2024 et Là, ce qui nous intéresse, c'est comment on met à manger dans l'assiette et dans le frigidaire et comment on paye les factures pour les enfants, pour le car, pour la cantine, pour tout ça. Donc, c'est un peu une déclaration hors sol et hors propos. Et c'est pas ce dont la Nouvelle-Calédonie a besoin aujourd'hui.
Alors, cette déclaration, vous y faisiez allusion, elle a été faite par le nouveau FLNKS, le MNIS, le PKNC et le Sénat coutumier au travers de l'instance autochtone de discussion. Ça vous agace aussi que le Sénat coutumier s'associe à ce type de déclaration?
Le Sénat coutumier, c'est une institution publique qui fonctionne grâce aux impôts que les Calédoniens payent. Ce n'est pas un parti politique. Donc oui, c'est agaçant parce que l'argent public ne doit pas être utilisé pour faire de la propagande, d'une part. Et d'autre part, concernant le PKNC, on a la religion qui nous sert justement à penser, à nous recueillir, à avoir la foi et l'espérance, et utiliser la religion et la coutume pour instrumentaliser les opinions, les pensées de nos concitoyens, c'est quelque chose qui pour moi est injuste, c'est une confiscation de nos libertés.
Mais ça fait longtemps tout de même qu'il y a une crise de représentation, une crise des institutions et de la représentation coutumière. C'est pas uniquement dans cette déclaration.
Oui, effectivement, c'est un problème de société que dans la communauté kanak nous vivons et que nous essayons tous les jours, et surtout nous les plus jeunes, de trouver des solutions, d'apprendre à réapprendre la coutume à nos enfants, de reprendre la transmission, que ce soit des langues, des us. Et oui, c'est un problème qu'il faut aussi qu'on pense, auquel il faut qu'on pense.
Et l'église protestante de Kanaky-Nouvelle-Calédonie, là non plus, c'est pas la première fois. Ça fait longtemps que les églises protestantes sont comme ça engagées politiquement. Vous avez connu un moment où elles l'étaient moins, où elles l'étaient pas du tout?
Bien sûr, il y a eu des moments où dans nos temples, dans nos églises, il y avait de toutes les communautés, où on apprenait des chants dans toutes les langues, où on apprenait aussi des savoir-faire, des savoir-être des autres communautés, où c'était vraiment important le vivre ensemble, parce que c'était le vecteur de la confiance qu'on avait en soi et du coup dans nos croyances ensemble. Et là, aujourd'hui, ça devient des temples qui sont désertés, qui ne sont fréquentés que par une communauté, et c'est on perd en richesse et on perd en multiculturalité. Et c'est triste pour l'avenir.
Ce discours du FLNKS et de ceux qui l'ont fait avec lui, vous dites qu'il est hors sol, hors propos, mais qu'est-ce qui peut être sensible aujourd'hui? Les jeunes, notamment, à votre avis, sont sensibles à ce type de discours que peut proclamer ou propager le FLNKS?
Nous comprenons que c'est une des cibles, et notamment la jeunesse. Moi, j'interprète aussi, c'est aussi à destination des personnes les plus vulnérables au niveau de tout ce qui va être information, réflexion, d'aller chercher l'information pour se faire une propre idée par soi-même. Et donc, pour moi, c'est un moyen aussi de ce qu'ils ont déclaré. Enfin, le fait de s'être associé, c'est aussi un moyen de piéger un peu les gens et de leur dire, de leur montrer que c'est la seule façon et unique, seule et unique façon de penser.
Alors on a bien compris que cette lettre ouverte, c'était une espèce de cri de colère de votre part, de mouvement d'humeur. Mais au travers de cette lettre, c'est quoi votre message? Qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes Calédoniens ou aux jeunes Mélanésiens?
Ce que je voudrais leur dire, c'est... En fait, mon message, c'est de leur dire que vous êtes libres de penser. Et vous êtes libre de vous informer, d'avoir vos opinions. On n'est pas formaté, notre liberté, elle commence là. Notre liberté, elle commence au moment où nous, on décide d'aller chercher de l'information, on décide de s'exprimer. Et donc, d'utiliser, d'instrumentaliser la coutume et la religion, c'est en quelque sorte nous prendre pour des incapables. Et en plus, dire que nous ne sommes pas capables de penser et nous n'avons pas... C'est comme s'ils n'ont pas confiance dans leurs gens.
Vous-même, vous vous sentez libre de vous exprimer, c'est pas difficile parfois pour vous de dire ce que vous pensez et de vous exprimer publiquement?
Bien sûr que si, mais si j'étais restée silencieuse, si j'avais laissé la caravane passer, comme on le dit l'expression, je pense que je ne pourrais pas me regarder en face et rester là à être juste spectateur.
Une lettre ouverte de Marie-Laure Ukewe, où est-ce qu'on peut la trouver? Où est-ce que les gens peuvent la lire, votre lettre?
Elle sera sur les réseaux sociaux dans quelques minutes.
Eh bien voilà, les gens pourront la découvrir. Merci Marie-Laure Ukewe d'accepter notre invitation.
Merci à vous.
Et une interview que vous pourrez retrouver également dans quelques minutes dès la fin de ce journal sur notre site internet rrb.nc. Il est 17h54, première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire et notamment cette demande de la CTC à la province des Îles. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Info soir, Léana Colombo.
La Chambre territoriale des comptes demande à la province des Îles de s'engager à un plan de redressement sur 5 ans. La CTC a été saisie par le Haut Commissaire après le vote du compte administratif 2024 de la collectivité le 12 juin. Jean-François Bodin.
Oui, un compte administratif qui présente un déficit de 6,54 milliards de francs. La loi organique prévoit que la Chambre des comptes propose des mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire dès lors que le déficit dépasse les 5% des recettes de fonctionnement. En 2024, celui de la province des Îles vaut à 49% des recettes de fonctionnement. La Chambre a donc contrôlé les finances de la province des Îles et a constaté que malgré les observations formulées en 2017 et 2023, la qualité des comptes de la collectivité ne correspond pas aux standards, notamment en matière de tenue d'une comptabilité d'engagement en dépenses comme en recettes. Compte tenu de l'ampleur du déficit du compte administratif de la province des Îles, il ne pourra pas être résorbé sur un seul exercice. La CTC a donc demandé à la province des Îles d'engager un plan de redressement entre 2025 et 2029 pour apurer ce déficit progressivement. Le plan devra donc, je cite, « impérativement s'accompagner d'une restauration de la régularité et de la sincérité des comptes ». La Chambre contrôlera annuellement la mise en œuvre du plan et en cas de non-respect par la province de la trajectoire définie par la Chambre, elle proposera les mesures au Haut-Commissariat qui réglera le budget.
L'antenne France Volontaire Nouvelle-Calédonie vient d'achever un stage de préparation au départ de 7 nouveaux volontaires qui seront déployés d'ici quelques semaines au Vanuatu, à Fidji et au Cambodge, Jean-François.
C'est la deuxième cohorte de volontaires pour cette année 2025. Ils sont donc 7 à avoir candidaté pour effectuer des missions sur des projets concrets portés et cofinancés par des partenaires comme la Maison de la Francophonie du Vanuatu, l'Université de la Nouvelle-Calédonie ou encore l'Institut agronomique néo-calédonien. L'antenne France Volontaire Nouvelle-Calédonie existe depuis maintenant plus de 10 ans et Marjorie Botella en est la responsable.
France Volontaire, c'est un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui porte le volontariat de solidarité internationale dans le monde entier. Et en Nouvelle-Calédonie, depuis 2012, un accord avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été développé pour en faire aussi un outil de politique de jeunesse, de mobilité, depuis déjà 13 ans. Nous déployons avec les institutions, avec les porteurs de projets locaux, avec différents financements, différents programmes du volontariat de solidarité internationale. C'est du volontariat et pas du bénévolat. Ils ont tous une indemnité, ils ont un cadre légal, ils sont couverts. Ce qu'ils font compte aussi dans leur point retraite. Ils ont une assurance, ils ont tout un engagement pris en charge avec un billet d'avion, un cadre légal, un contrat. En fait, tout est calé et porté selon la législation dédié au volontariat de solidarité internationale.
Et pour cette seconde cohorte de l'année 2025, ils sont donc 7 à partir en mission dans quelques semaines. Parmi ces jeunes, Marine Palen Manakofaiva, qui a 23 ans et qui va être déployée dans un lycée de Phnom Penh, la capitale du Cambodge.
Je suis chargée d'animation et chargée d'activités culturelles dans un lycée français. On appelle ça un lycée, mais moi je veux beaucoup m'occuper de la tranche d'âge du primaire. Il faut savoir que je viens de revenir il y a 2 mois avec mon diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Et c'est vrai que pendant ma formation, j'étais beaucoup portée sur l'interculturalité puisque j'ai eu l'opportunité d'aller en Turquie, découvrir le social. Et c'est vrai que là, avec le diplôme en poche, je pense que j'aimerais beaucoup l'exploiter ici sur le territoire puisqu'il faut, faut se l'avouer, il y a beaucoup de cultures qui sont présentes sur le territoire. Et aborder les choses et les gens que je pourrais accompagner sous ce prisme-là serait vraiment intéressant.
La cérémonie de clôture de ce stage de préparation au départ des volontaires de Solidarité Internationale ce matin s'est déroulée en présence des volontaires, bien sûr, mais aussi de l'ambassadrice Véronique Roger-Lacan, du secrétaire général adjoint du Haut-Commissariat Arnaud Lozier, de Serge Mahé, le consul général du Vanuatu et des représentants des différents partenaires.
Notez maintenant ces deux rendez-vous d'antenne. Au-delà des affaires régionales, la France est active dans la zone Indo-Pacifique où l'Australie et la Chine restent les deux puissances les plus importantes. Nous en parlerons demain matin avec l'ambassadrice de France dans le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, qui sera notre invitée à 7h30. Nous verrons aussi avec elle les répercussions dans la région de la reconnaissance de l'État d'Israël par un certain nombre de pays et, et notamment l'Australie. Et puis, c'est Sonia Lagarde qui sera demain midi l'invitée d'Elisabeth Noire dans le magazine Transparence. Le maire de Nouméa sera interrogé sur l'actualité municipale, mais aussi sur l'actualité politique calédonienne et nationale. Sonia Lagarde, invitée de Transparence, c'est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée.
RRB, il est 18h.
Apprendre le monde de l'entreprise dès le lycée. Il existe un projet pilote en Calédonie mené à Jules Garnier, baptisé Parcours Entrepreneur. Il regroupe des élèves, des enseignants, des entreprises et des partenaires. Et vous en avez parlé ce midi dans les Jeudis de l'économie, Jean-François Baudin.
Même si de nombreux jeunes vivent leur carrière en entreprise, ils connaissent mal ce milieu professionnel avant d'y être confrontés. L'an dernier a débuté au lycée Jules Garnier un projet pilote. Il démarre en seconde et se poursuit en première et terminale et permet aux jeunes de développer un projet d'entreprise et le mettre en œuvre. Ils sont pour cela accompagnés par des professeurs et par des entreprises partenaires. Trois professeurs accompagnent ce projet, parmi elles Julie Micheli, chargée de mission école-entreprise au vice-rectorat et professeure d'éco-gestion au lycée Jules Garnier.
En fait, ce qu'on a voulu leur dire, c'est que la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire formidable. Il y a vraiment plein de choses à faire, plein de choses qui ne sont pas encore montées. Et qu'eux pouvaient être, en réalité, à l'origine de tous ces projets qui se créent. Déjà, leur faire comprendre que c'était possible, c'était la première étape. Ensuite, évidemment, ils ne seront pas tous entrepreneurs. Mais la formation qu'on leur donne, et notamment grâce à nos mentors et nos partenaires, c'est de leur dire, mais la création, en fait, ça peut vous servir même si un jour vous allez travailler en entreprise, donc vous découvrez déjà l'entreprise, et jusqu'à ceux qui vont vraiment devenir entrepreneurs.
Les élèves ont 2 heures de cours dédiés à ce parcours entreprise dans leur emploi du temps hebdomadaire. Et ils peuvent aussi s'appuyer sur des entreprises partenaires. Bénédicte Barré de la CECAL intervient régulièrement auprès des élèves. Non seulement c'est une formation essentielle, estime-t-elle, mais c'est aussi un échange gagnant-gagnant.
L'idée, c'est de partager notre savoir et nos savoir-faire. Et c'est surtout de partager un moment avec ces jeunes. Parce que justement, éloignés du monde de l'entrepreneuriat, parfois très éloignés de toutes les idées de ce qu'on peut se faire d'une entreprise. Et l'idée, c'est de la rattacher à ça, parce que nous, on apporte des choses. Eux, ils nous apportent aussi des choses. Aujourd'hui, les jeunes, on se rend compte qu'on ne les comprend pas forcément. Et le fait de faire ce genre d'initiative et de participer à ces initiatives-là nous permet quand même de les comprendre et de faire évoluer nos entreprises aussi par rapport à leurs besoins aujourd'hui. Nous, au niveau de la CECAL, on est quand même une structure privée, hein, une société d'économie mixte à vocation d'intérêt général. Donc, on est quand même sous couvert de la Convention du commerce. Mais par contre, on a une obligation vraiment d'intérêt général et de participer au développement du pays. Et donc, ce mentorat-là fait complètement partie de notre ligne.
Et pour faire connaître ce parcours, une caravane va être mise en place et sillonnera la Calédonie au mois de novembre. Il s'agira de présenter ce parcours entrepreneur aux enseignants qui souhaitent le mettre en œuvre dans leurs différents établissements partout en Nouvelle-Calédonie, mais aussi aux élèves qui veulent en bénéficier avec leur classe. Ce sont les élèves de Jules Garnier eux-mêmes, avec leurs enseignants et les entreprises partenaires qui iront à leur rencontre.
Une émission à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. L'actualité est dans la région et la police néo-zélandaise vient de réaliser un vaste coup de filet dans la lutte contre le trafic de drogue. Elle a saisi plus de 10 tonnes de cannabis, démantelé des dizaines de serres chauffantes et arrêté 30 trafiquants. C'est le récit de Jean-Pierre Zajac.
Ce spectaculaire coup de filet a été réalisé à Auckland, où des habitations d'apparence innocente étaient en fait d'importants centres de production et d'écoulement de cannabis. Près de 130 perquisitions de ces respectables demeures ont abouti à la saisie de plus de 10 tonnes de cannabis et au démantèlement de 120 serres où la croissance des plantes était facilitée par un imposant système de chauffage électrique. Au total, la police a procédé à l'arrachage de 11 000 plants de cannabis, dont la valeur à la revente a été estimée à plus de 5 milliards de nos francs. 30 trafiquants ont également été arrêtés. La plupart d'entre eux étaient des ressortissants vietnamiens qui font désormais l'objet d'une mesure d'expulsion. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Seconde pause avant de voir toute l'actualité festive de ce week-end et ça commence avec le retour des Francofolies.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Vous êtes une entreprise, association ou collectivité ? Vous réduisez, réutilisez, recyclez les déchets ou vous souhaitez vous lancer dans cette démarche ? La Province Sud et l'ADEME peuvent financer votre projet. Pour cela, il suffit de répondre à l'appel à projet Économie circulaire avant le 14 novembre. Rendez-vous sur le site province-sud.nc. La Province Sud, agir pour l'avenir.
Savez-vous qu'il est préférable de ne pas dépasser de 8 degrés l'écart entre la température intérieure et la température extérieure ? Sachez aussi qu'une habitation bien isolée permet de gagner jusqu'à 5 degrés de température intérieure.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
Il est 18h06, la fin de votre journal avec Léana Colombo.
Et c'est un grand week-end de fêtes qui s'annonce. Les Francofolies et Jazz à Nouméa font leur retour vendredi et samedi au Centre culturel Tchibaou. Après une édition 2023 marquée par l'annulation du festival en raison de la pluie, une année 2024 compromise après les violences insurrectionnelles, c'est un retour qui était attendu. Gérard Pont, le président des Francofolies de La Rochelle depuis 21 ans, a fait le déplacement pour l'occasion.
C'était essentiel d'être à côté des équipes des Francofolies de Nouvelle-Calédonie. C'est une famille, les Franco, donc ils avaient besoin du soutien de la famille, et la famille est là. Et au-delà de ça, c'est aussi du plaisir, hein, parce que c'est toujours agréable de venir à l'autre bout du monde sous le soleil. C'est une île magnifique, des îles magnifiques, donc on a plaisir à venir. Et puis voilà, on commence à connaître un peu du monde. Moi, je me sens bien ici.
Parmi les têtes d'affiche, Deluxe, qui revient pour la troisième fois sur le territoire.
Ça fait très très plaisir de revenir. On a vraiment hâte de jouer, de retrouver un public qui est vraiment extra. On se rappelle très bien des deux dernières prestations qu'on a faites ici parce qu'il s'est toujours passé des choses assez extraordinaires. La première fois qu'on a joué au Kwendu Beach, tous ceux qui étaient là s'en rappellent, on a dû évacuer le site du Kwendu parce qu'il y avait un des piliers qui avait commencé à se fissurer tellement le public était dingue. L'année suivante, il s'est passé la même chose au 1881. On a pété les planchers qui étaient par-dessus les piscines. Quoi. On est reparti de l'île en se disant mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont ici quoi ? C'est des fous furieux. Donc, ouais, c'est vraiment des putains de souvenirs de concert, quoi. Qu'est-ce que vous allez voir de différent ? Bah déjà des morceaux différents, le spectacle n'est pas le même, donc c'est pas les mêmes chansons, c'est pas les mêmes costumes, c'est pas la même scéno, c'est pas le même show light, c'est pas le même show, donc c'est tout de neuf, mais c'est la même énergie, la même essence, le même mood, mais avec des chansons différentes et quelques anciens morceaux de nos précédents albums, là, nos préférés, les incontournables. Ouais.
Aux côtés des artistes internationaux, les groupes calédoniens ne sont pas en reste. Teva de Pakawa a hâte d'être sur scène avec sa musique polynésienne.
C'est la chance de pouvoir partager la scène avec les artistes internationaux, comme Deluxe ou qu'on voit sur YouTube, là, de performer à leur côté. Et puis, ce que j'attends de ce festival, c'est aussi un échange avec les artistes, qu'on s'enrichisse d'eux et puis que nous aussi, on ait à offrir ce qu'on sait pour leur musique, partage, quoi. On a essayé de faire quelques surprises, parce que nous, on est des mauvais élèves. On fait beaucoup au feeling sur nos scènes. Et on s'est dit, pour celle-là, on va essayer de préparer quelque chose. Et voilà, ça a retrouvé sur la scène des Francofolies vendredi soir.
Vous pouvez réserver vos places sur le site ticket.nc ou les acheter directement sur place. Autre événement qui animera le territoire, la Fête de la Science qui s'intéresse cette année aux différentes intelligences. L'événement se tiendra du 3 au 13 octobre. 41 événements sont répartis dans 3 provinces, dont 4 événements coup de cœur. L'objectif est de partager à travers différents événements des connaissances scientifiques, mais aussi la manière dont on peut faire le lien entre la science et la vie de tous les jours. Les Calédoniens pourront ainsi découvrir la diversité des intelligences, explique Florent Olivier, responsable de la cellule de coordination du CRISICA.
Alors, il va y avoir Astragora, qui est une discussion avec une Calédonienne avec elle. On va parler des intelligences liées à l'astrophysique, mais également aux intelligences extraplanétaires. On va également avoir des échanges à propos de la santé mentale et de la réhabilitation sociale. Il y a également le sujet du corbeau calédonien, qui est un animal endémique. Il va y avoir plein d'animations parcs forestiers autour de cet animal. On évoquait tout à l'heure la question de l'intelligence artificielle et de l'éducation et de la transmission. L'ambassadeur de la Fête de la Science, c'est exactement sa spécialité. Il fera plusieurs interventions et en particulier une conférence de clôture le 13 octobre au soir à l'université.
La Fête de la Science s'adresse à tout public et se déroulera, je le rappelle, du 3 au 13 octobre. La liste des événements est à retrouver sur le site internet de la Fête de la Science. 18h10, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et alors là, attention, ce n'est pas une IA qui nous fait la météo, c'est Pierre qui nous dit tout.
Ah bah non, sûrement pas. Pour le soleil, on va pas quand même...
J'espère qu'il y a des bonnes nouvelles. Dites-nous tout, Pierre.
Alors, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais la météo s'en changera, du coup. Cette nuit, les bandes de nuages bas seront parfois nombreux, mais le temps restera généralement sec. Quelques gouttes pourront malgré tout se glisser le long de la côte est. Le vent de sud-est soufflera autour de 10 nœuds en début de nuit, avant de mollir entre 5 et 10 nœuds sur l'ouest. La pointe sud est marée. À l'inverse, il se renforcera sur la pointe nord-est et UV1 entre 10 et 15 nœuds. Côté température, elles seront entre 16 et 20 degrés, avec des valeurs plus fraîches autour de 14 à 15 degrés vers le sud, Lifou et Marais. Demain matin, le soleil devra rivaliser avec des bancs de nuages parfois tenaces, hein, d'où du coup le mi-figue, mi-raisin. Mais sur le sud, les éclaircies finiront par l'emporter. Le temps restera globalement sec. Le vent orienté est-sud-est s'établira progressivement entre 10 et 15 nœuds sur le nord, mais restera plus faible sous les 10 nœuds vers Koumac. Ailleurs, il soufflera autour de 10 nœuds. Côté marée, pour nos amis les pêcheurs, elle se rabasse tout à l'heure à 21h50 pour redescendre vendredi matin à 4h et pour enfin remonter vendredi matin à 10h30.
Et merci beaucoup Pierre pour cette météo de qualité. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.